je vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Vous êtes à l'écoute de l'actualité des luttes et nous poursuivons avec l'enregistrement de la réunion publique qui a eu lieu le vendredi 14 mars au CICP. Quelle perspective pour une Palestine laïque, libre, démocratique de la mer au Jourdain, avec Naji El-Khatib, universitaire palestinien, militant de l'initiative pour un État démocratique, ODSI.
Bon, eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve, alors que la situation est toujours dramatique pour le peuple palestinien, malgré le cessez-le-feu. On l'a tous vu, la bande de Gaza a été détruite. Au moins 40 000 Palestiniens, peut-être même le double, voire plus, ont été assassinés, plus ou moins de sang-froid, par l'armée israélienne. Et la population qui en a réchappé, elle est sans abri, elle est soumise à la disette, à la misère. Et Israël se sert un peu du chantage à l'aide humanitaire pour imposer ses conditions. De l'autre côté, en Cisjordanie, c'est pas beaucoup mieux parce que l'État sioniste et ses colons appliquent une politique de confiscation de terres et d'apartheid, et même de pogroms plus violentes que jamais. Alors oui, nous, on fait partie de ceux qui le disent. Ce qu'on a vu à Gaza ces derniers mois, c'est bien un génocide. Et ça, on ne pardonnera jamais. Ça nous a quand même donné la rage au ventre. On ne le pardonnera jamais aux impérialistes, on ne le pardonnera jamais aux sionistes. Parce que ce génocide, bien sûr, il a été mené avec la complicité avant tout des USA, sans qui il n'y aurait pas de puissance militaire israélienne, mais aussi, bien sûr, de toutes les autres puissances mondiales, notamment de la France. La France qui fait semblant de maintenir une position équilibrée, dixit Emmanuel Macron. Mais lorsqu'un peuple, homme, femme, enfant, est massacré sans retenue, à qui profite-t-elle cette fameuse position équilibrée? D'autant plus qu'ici, en France, on l'a tous constaté, il y a bien sûr un deux poids, deux mesures. Toute solidarité avec la Palestine est plus ou moins assimilée à de l'antisémitisme aujourd'hui. Parlons de la dissolution des collectifs, comme le collectif Palestine vaincra il y a quelques semaines. Des manifestations interdites, bien sûr. Des militants licenciés pour avoir affiché leur soutien à la cause palestinienne, notamment un camarade de la CGT dans le sud-ouest, Timothée Esprit. Parlons de tous ceux placés en garde à vue et menacés de poursuite. Parce que leur tort, c'est quoi leur tort? C'est d'avoir réaffirmé le droit d'un peuple colonisé à se défendre, par les armes si nécessaire. C'est d'avoir critiqué le consensus impérialiste qui refuse toute remise en cause de l'État d'Israël, qui, in fine, n'est qu'une colonie de peuplement occidental au même titre que l'Afrique du Sud de l'époque de l'apartheid. Alors oui, nous nous tenons aux côtés du peuple palestinien lorsqu'il se bat pour retrouver son pays, tout son pays de la mer au Jourdain. Et notre soutien inconditionnel, bien sûr, il va au peuple palestinien dans sa lutte contre la colonisation sioniste. Depuis l'origine de notre organisation, VP, alors on est un petit groupe, hein, mais on a quand même une longue histoire dans les années 70, nous avons soutenu la lutte de libération nationale démocratique du peuple palestinien, bafouée dès la création de l'État d'Israël en 1948. Alors c'est quelque chose qui nous démarque bien sûr de tous les prétendus démocrates bourgeois, tous ceux qui continuent à défendre la solution à deux États, alors qu'on voit bien que ça n'a aucun sens. Plus les années passent et plus on voit que c'est de la foutaise. Aussi des courants trotskistes comme Lutte ouvrière ou une partie du NPA qui, eux, refusent tout soutien à une quelconque lutte nationale et démocratique parce qu'ils rêvent d'une unité de classe un peu abstraite dans la situation actuelle. Une unité de classe dont on pourrait se demander où est-ce qu'elle peut, sur quelle base elle peut se constituer quand on est en période d'oppression nationale et de génocide. Mais AVP aussi, on n'est pas juste partie prenante du mouvement de solidarité avec la Palestine, on est des communistes et des internationalistes. Donc oui, nous, on a un avis sur ce qui se passe chez les autres. Plutôt, on essaye d'en avoir un quand on peut. Outre le soutien inconditionnel à la lutte légitime d'un peuple, on choisit d'apporter notre soutien positif à tel projet politique plutôt qu'à un autre. Alors aujourd'hui, dans la situation actuelle dramatique du peuple palestinien, ça peut paraître hors de propos parce que ça paraît tellement lointain, la perspective de la libération de la Palestine. Mais il faut savoir que dès le début, une lutte de libération nationale, elle est orientée par un projet politique pour l'après. Projet politique que les différentes forces politiques en présence sur le terrain, elles, s'efforcent de construire dès la première heure. Alors parfois on nous dit « on verra plus tard, l'heure elle est à la lutte, l'heure elle est à l'unité, sans faire de critique ». Mais nous, à ça, notre réponse, elle est simple. On récolte demain ce qu'on sème aujourd'hui. Et donc, sur la base d'un juste soutien au combat national et démocratique palestinien, il y a certains courants dans le mouvement de solidarité avec la Palestine qui parlent de soutien inconditionnel, non pas à la lutte du peuple palestinien, mais dans tous les cas aux organisations qui dirigent cette résistance, quelle que soit leur stratégie et leur tactique. Et bien nous, on n'est pas d'accord avec ce positionnement-là. Parce que nous, on pense que dans tout combat national, dans tout combat démocratique, dès le début, on a quand même une lutte entre deux orientations. Il y a une orientation réactionnaire, bourgeoise, capitaliste, qui va entraîner la révolution à son échec. Alors c'est déjà celle qu'on a vue à l'œuvre appliquée par la direction du Fatah, qui en acceptant les accords d'Oslo et même des accords précédents, hein, et jusqu'à aujourd'hui s'est transformé toujours plus en agent de l'impérialisme et du sionisme, jusqu'à aujourd'hui faire les œuvres de police de l'État d'Israël dans les camps de réfugiés. Mais pour nous, l'orientation du Hamas, également, elle mène à l'échec de la lutte de libération nationale. Et face à cette voie, on va dire, réactionnaire, nous, on soutient l'idée qu'il faut construire, partout où c'est possible, une orientation populaire, communiste, progressiste, qui, dès le début, va orienter ce combat vers un avenir libérateur. Effectivement, nous soutenons de manière inconditionnelle le droit à la résistance du peuple palestinien, le droit à libérer sa terre par les armes s'il le faut, même quand ça paraît, à l'heure actuelle, la seule solution. Mais par contre, nous refusons de nous aligner systématiquement derrière les forces qui dirigent cette lutte, en l'occurrence de nous aligner derrière le Hamas, que nous considérons comme un parti politique réactionnaire, antidémocratique, misogyne, antisémite, etc. Alors il y a 30 ans, les accords d'Oslo prétendaient valider l'existence de deux États voisins. Et bien nous, on pense qu'aujourd'hui, la situation, elle montre bien que la seule solution, c'est de lutter, de souhaiter une seule Palestine, libre, laïque et démocratique, dans ses frontières historiques, garantissant le droit au retour des réfugiés, et qui est la seule manière d'offrir une perspective progressiste à tous les peuples de la région. Parce qu'on voit que ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Syrie, au Liban, en Cisjordanie, etc., tout est lié. Tout est lié par un même système impérialiste, par un même système qui repose sur des forces politiques réactionnaires ou sur des États arabes réactionnaires. Alors nous, notre point de vue, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit le Qatar, le Maroc évidemment, que ce soit même hier le régime de Bachar al-Assad, pour nous, il ne s'agit que d'États arabes réactionnaires qui ont toujours été favorisés, encouragés, tolérés par les impérialistes et les sionistes, parce que justement, leur rôle historique, c'était de s'opposer aux mouvements démocratiques et nationaux des peuples arabes. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, notre soutien positif, il va aux camarades de l'ODSI. L'ODSI, c'est l'acronyme d'Initiative pour un seul État démocratique. Et parce que ces camarades-là, dont fait partie Nagi, défendent, eux, un projet progressiste et révolutionnaire pour la Palestine. Je vous encourage à aller voir leur site internet, qui est riche de tout un tas de contributions et d'analyses sur le sujet.
Bonsoir à toutes et à tous. La question de la Palestine dans ces jours dramatiques de génocide, de colonisation rampante qui grignote les territoires qui restent de la Palestine, avec un discours de deux États. On voit effectivement Biden, il a parlé qu'il est avec l'État palestinien, Macron également. Il a évoqué la possibilité que la France soutient la création d'un État palestinien. Donc, tout le monde parle de cet État à côté de l'État d'Israël, mais en réalité, il s'agit que des discours vides de sens et vides de contenu, car la politique occidentale en général a un soutien absolument total à la politique colonialiste sioniste en Palestine, le projet initial du mouvement sioniste depuis ses débuts. Et ce projet continue effectivement depuis la création de l'État d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit d'un projet de judaïser toute la terre de la Palestine, de Jordan à la mer. Il s'agit d'un projet de colonisation, de peuplement. Et on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire les autochtones, ils sont que deux options devant eux, soit l'expulsion massive, qu'est-ce qui s'est passé effectivement en 1948, soit les génocides, et qu'est-ce qui se passe actuellement à Gaza. Nous sommes devant un projet colonial sioniste de peuplement qui nécessite la création d'un État exclusif juif, et les Palestiniens, ils n'ont pas le droit d'être là. Car être là, ça veut dire, c'est exactement l'opposé de ce projet colonialiste. Voilà, tout le monde parle de la solution de deux États, mais le projet sioniste, il est en marche. Il est en marche accélérée. On a avancé effectivement que les accords de Oslo, dans la perception de quelques Palestiniens, qu'ils vont avoir une possibilité de stopper cette avancée de la colonisation. Mais on a vu, c'est le contraire. Avec 30 ans de négociations, soi-disant négociations de paix, on a vu que le territoire palestinien qui était à l'ordre de 22% de la Palestine historique se réduit actuellement à 9,3%. Sous la couverture des négociations, la colonisation continue à grignoter la terre des Palestiniens, les colonies continuent à grandir. Pour nous, dans l'initiative pour One Democratic State, nous considérons que les accords d'Oslo représentent véritablement le deuxième Nakba. Car si le premier Nakba en 1948 qui a abouti à la création de l'État d'Israël, on sait très bien que ce Nakba-là a été aussi l'occasion pour une émergence du mouvement national palestinien qui commence depuis le début des années 50 à exprimer toutes les aspirations du peuple palestinien vers la liberté d'avoir ses droits et ses aspirations pour vivre tranquillement dans son pays. Mais le problème de ce deuxième Nakba, qui est les accords d'Oslo, qu'une partie de l'élite nationale qui a porté les aspirations du peuple palestinien a été partie prenante dans cette dégradation de la lutte nationale palestinienne, où il y a une partie du mouvement national palestinien a devenu, en quelque sorte, l'auxiliaire de l'occupation. Pour nous, c'est une catastrophe, car il s'agit d'une première reconnaissance d'une partie des Palestiniens de récisionniste. Le récisionniste qui insiste à dire que la Palestine, elle appartient aux Juifs d'où ils sont, dans tout le monde, en présentant les Juifs comme un peuple avec des droits, soi-disant, la Bible a garanti ces droits que les Juifs aient été un jour ici. Donc, le retour des Juifs en Palestine, c'était le récit du mouvement sioniste. Et on considère que le mouvement sioniste a réussi réellement à coloniser la conscience juive pour l'instrumentaliser dans cet effort de rassembler tous les Juifs et prétendre que les Juifs, d'où ils viennent, ils représentent effectivement une nation et il faut avoir un État-nation pour ce peuple juif et il s'agit de la Palestine. Voilà la lutte palestinienne qui souffre actuellement de la division. Elle souffre aussi de cette division qui met en quelque sorte une partie de l'élite palestinienne au service de l'occupation. Donc, vous voyez la première carte, 1917, la Palestine, elle est entièrement le lieu où le peuple palestinien vit. On voit en 1946 le début de la colonisation juive avec sur la côte, un petit peu autour de la basse Galilée, autour de Tibériade, à toutes ces régions. On voit qu'il y a une colonisation qui commence à avancer petit à petit, 46, 47, 67, et on voit actuellement l'état actuel. Qu'est-ce qu'on voit dans cette progression de cette colonisation rampante? Le rétrécissement de l'espace où les Palestiniens vivent, la colonisation sioniste qui occupe tout l'espace de la Palestine historique. C'est un processus de déportation. Le mouvement sioniste, il utilise le terme « transfert de population ». On peut transférer des objets, mais on ne peut pas transférer des populations. Il s'agit tout simplement d'une déportation, le remplacement des populations entières pour évacuer l'espace et implanter une autre population dans le même espace. Donc la Palestine, en 1917, a été une Palestine ionique, multiconfessionnelle, unifiée sur l'autorité mandataire. Une Palestine qui est sous mandat britannique, comme toute la région qui est tombée sur les mandats soit français, soit britannique. En 1946, il y a une sorte de renforcement de la présence juive par l'immigration massive des juifs ashkénazes. En 1946, la population en Palestine a été de l'ordre d'1 900 000 personnes. Les juifs, ils étaient de l'ordre de 600 000. Donc, il y a 70% de la population qui sont les Palestiniens. En 1946, la Palestine, elle est toujours à majorité palestinienne. En 1947, on a le plan de partage. Et ce mot aussi, c'est un mot complètement biaisé, car il s'agit, quand on partage volontairement un gâteau ensemble. Mais il ne s'agit pas de partage, il s'agit tout simplement de partition de la Palestine en deux États. Le plan de partition de la Palestine, il a fait une sorte d'accorder 78% de la terre de la Palestine à l'État juif. 600 000 colons juifs contre 1 200 000 Palestiniens, mais cette minorité, elle obtient 78% de la terre. C'est ça le blanc de la partition de la Palestine. Pour ça, les Palestiniens, ils étaient effectivement dans le sentiment qu'il s'agit d'un vol de leur terre. Ça veut dire que la création de l'État juif a été conditionnée par la création de l'État arabe, selon la terminologie légale des Nations Unies. Mais on a vu très bien qu'il y avait une création de l'État juif, il n'y avait eu jamais la création d'un État palestinien. Et malgré tout, on a considéré que l'État juif, c'est un État, au vu de la légalité internationale, il a absolument toute la légitimité d'exister. La semaine dernière, j'étais dans un débat avec un nombre de juristes. Il y a un juriste qui m'a dit, vous savez, monsieur, la création des États, ils n'ont pas besoin de reconnaissance internationale. Il s'agit d'un développement d'une communauté quelconque qui a décidé de créer son État. Et il s'agit effectivement de créer un État juif, car il y a une communauté juive qui était en place et il n'a pas besoin d'ailleurs de reconnaissance internationale. Je lui dis d'accord, mais cette loi internationale, il y a aussi une autre loi internationale qui dit le droit des peuples à disposer de leur droit à l'autodétermination. Et s'il y a la légitimité de revendiquer la création de son propre État, cette loi-là, elle est à l'opposé du droit des Palestiniens de disposer de leurs droits pour créer aussi leurs droits. Ils sont le peuple autochtone et majoritaire dans ce lieu. La résolution 181 n'a pas été acceptée. Il y a par la suite la résolution 194 qui aussi insiste sur le devoir de l'État juif de récompenser ou accepter le retour des réfugiés, une chose qui n'était pas aussi réalisée. L'État d'Israël, depuis le début, a été basé sur 12 éléments qui sont complètement contre la légalité internationale.
غنى البارود من داخل المخيم أطفال صغار
Vous êtes toujours sur l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel. Quelle perspective pour une Palestine libre, laïque, démocratique de la mer au Jourdan, avec Naji El Khatib, une réunion organisée par l'OCML-VP.
En réalité, on a toujours devant deux notions antagonistes. Les Palestiniens, ils étaient toujours basés sur leur sentiment de leurs droits. Mais le problème pour les Palestiniens toujours, c'est la question du rapport de force qui était toujours inégalé, car un peuple palestinien en face d'un projet impérialiste, impérial, où représente un consensus parmi toutes les grandes puissances de l'époque, et le mouvement sioniste a été une partie intégrante de cette domination impérialiste. Il s'agit d'un rapport de force qui va à l'opposé de la question de droit. Nous souhaitons effectivement que toutes les terminologies qu'on utilise soient aussi révisitées dans quelque sorte, comme l'histoire de transfert de population, il faut dire déportation, comme la question, on dit qu'il y a des massacres, mais il n'y a pas que des massacres. Un écrivain palestinien, il a dit que ce n'est pas seulement les massacres, il y a le écocide, ça veut dire qu'il y a une destruction massive de l'environnement. C'est pour effacer tout signe de vie et rendre les territoires palestiniens de Gaza un lieu inhabitable pour pousser les gens à quitter le lieu et à être déportés facilement. Dans cette situation, on est obligé toujours à revenir à ces histoires des accords de Oslo. Les accords de Oslo qu'ils ont mis dans la tête des Palestiniens qu'il y a enfin une possibilité de créer un État palestinien à côté de l'État d'Israël, car les rapports de force sont toujours inégaux. Donc au moins, les Palestiniens vont avoir une petite possibilité d'avoir leurs droits. Mais les leadership palestiniens de l'OLB à l'époque, ils ont présenté le projet de deux États comme un projet qui va aboutir dans 5 ans à la création d'un État palestinien. Mais une chose est bizarre, il s'agit des accords qui sont composés de 600 pages, mais dans 600 pages, il n'y a pas le mot « État » qui figure nulle part. Dans 600 pages, on parle de tout, on parle pas de tout de la fin de la colonisation. On parle pas de la nécessité de faire un État. Cet État palestinien, il devient quelque chose de fictionnel et il devient effectivement un élément pour tromper les Palestiniens et lui donner l'espoir qu'il y aura quelque chose. Les Palestiniens, ils n'ont absolument rien obtenu pendant toutes ces années de négociations. Quand les négociations, elles ont commencé en 1994-95, sérieusement, le nombre de colons dans les territoires, il compte 160 000 colons. Après 30 ans de négociations, le nombre de 160 000, ils sont devenus autour de 900 000. Et il y a des autres études qui parlent d'un million de colons qui sont dans les territoires. Donc, c'est les accords de Oslo qui sont effectivement permis aux Israéliens d'avoir plus de colons et plus de grignotage des territoires. Donc, on ne peut pas imaginer effectivement la possibilité d'avoir un jour un État dans ce lieu qui est complètement morcelé, semé par le mur de séparation, par les colonies, les routes de contournement. Il y a des petits ghettos séparés l'un de l'autre où il y a l'impossibilité de circuler. Pour sortir de Jéricho jusqu'à Ramallah, c'est presque des fois impossible à cause des barrages, à cause des colons qui sont enragés, qui vont effectivement menacer la circulation des véhicules palestiniens. Et il y a dans tous ces lieux qui séparent ces ghettos palestiniens, il y a cet nombre vraiment croissant des colons qui arrivent autour de 900 000 selon les statistiques officielles. Mais on dit que c'est déjà beaucoup plus que ça. Le titre, il est assez parlant. On parle de l'archipel de la Palestine orientale. C'est un archipel où il y a des petits îlots qui sont séparés l'un de l'autre, où il n'y a aucune possibilité d'avoir de continuité qui permet d'avoir un État dans ce lieu. Si on voit ces ghettos qui représentent la Cisjordanie, c'est des territoires contrôlés absolument par les Israéliens, car les accords d'Oslo, ils ont divisé ces territoires en trois zones, A, B, C. A, c'est les grandes villes, et B, c'est les petites villes avec quelques régions autour. Et la zone C, c'est la majeure partie constitue autour de 60% de la Cisjordanie, et elle est absolument sous la domination de l'armée israélienne. Et il faut savoir que les Israéliens ne respectent absolument pas la zone, ni la zone B, ni la zone C, et ils sont partout. Donc, la conclusion que nous sommes réellement de Jourdan à la mer, nous sommes devant un seul État. Il n'y a pas la possibilité d'avoir un deuxième État, vu la dépendance absolue de toutes ces ghettos palestiniens, économiquement parlant, politiquement, il n'y a aucune souveraineté pour ces territoires. Et il y a sous contrôle de l'armée et la contrôle sécuritaire israélien qui rend de Jourdan à la mer un seul État, c'est l'État d'Israël. Donc, nous sommes dans notre petit mouvement, l'initiative pour un seul État démocratique. On voit que quand il s'agit d'un seul État, il faut accepter qu'il faut changer la nature de cet État, car il y a actuellement dans cette Palestine mandataire un seul État, mais c'est un État d'apartheid, c'est un État raciste, c'est un État exclusivement pour les Juifs, où il y a une exclusion des Palestiniens, un État qui n'a jamais accepté l'idée de retour des Palestiniens dans leur terre. Donc s'il s'agit d'un seul État, il faut changer la nature de cet État pour qu'il devienne un État de citoyens pour tout le monde qui vit dans cet espace qui est contrôlé actuellement par l'État d'Israël. Un seul État démocratique, c'est effectivement le destin de la lutte nationale palestinienne, car on arrive à un point de non-retour, en quelque sorte. Les Palestiniens, devant cette domination absolue de l'État d'Israël, devant cet échec retentissant de l'idée de créer un État palestinien, les Palestiniens, ils sont capables de revenir à leur aspiration qui était exprimée depuis très longtemps, d'avoir cet espace en étant un État laïque et démocratique de tous les citoyens qui habitent dans cet espace de cette terre de la Palestine. La cause nationale palestinienne a subi beaucoup de défaites. La défaite principale, elle vient de cet accord de Oslo. Les accords de Oslo ont divisé le peuple palestinien entre plusieurs morceaux, Il y a la fameuse déclaration de Arafat pour un journaliste français concernant le sort de la communauté palestinienne d'Israël. Arafat, en 1997, il a dit tout simplement « Les Palestiniens d'Israël, c'est une question israélienne ». Ça veut dire qu'il a accepté qu'une partie du peuple palestinien devient réellement une question israélienne. Il a divisé le peuple palestinien, il n'y a pas d'unité du peuple palestinien. Les accords d'Oslo a été aussi un grand mensonge, car au début, le leadership palestinien, ils ont présenté ces accords comme étant une possibilité de négocier le retour des réfugiés palestiniens, mais réellement, il n'y a jamais eu de discussion véritable sur la question du retour des Palestiniens, spécialement les Palestiniens qui étaient expulsés suite à la création de l'État d'Israël en 1948. Il s'agit tout simplement, on a négocié la possibilité de retour d'une petite partie des réfugiés dans les territoires de l'État palestinien à créer. Donc les accords d'Oslo, ils ont divisé l'espace de la Palestine, ils ont divisé le peuple palestinien, et ils ont divisé la cause nationale palestinienne dans son ensemble. C'est une autorité qui a été créée et qui a effectivement réalisé un objectif zioniste par excellence. On voit c'est une autorité où, avec toutes ces méfaits politiques faits à la cause nationale palestinienne, on a réussi à transformer le combattant palestinien en gardien de la colonie. Et ça, c'était quelque chose de terrible pour les Palestiniens. Ça veut dire comment une partie de l'organisation palestinienne devient un auxiliaire de l'occupation. On voit clairement, c'est une autorité, l'autorité palestinienne, et l'emploie 85 000 salariés dans l'appareil sécurité, la sécurité. Un appareil qui consomme un tiers du budget de l'autorité palestinienne. Donc on voit que cette autorité, il a vraiment le rôle auxiliaire de l'occupation, surtout garantit la sécurité de l'État d'Israël, garantit la sécurité des colons. Au lieu de combattre les colons, on garantit leur sécurité. Et voilà l'État démocratique et laïque. Pour nous, dans l'initiative, on considère que c'est une proposition qui est bonne. Il s'agit de la création d'un espace étatique où l'appartenance, ce sera une appartenance à une communauté politique qui n'est pas du tout une communauté nationale, une communauté linguistique, une communauté confessionnelle. Il s'agit d'une communauté des citoyens où il y a un État neutre, il n'y a pas de religion pour l'État, où toutes les composantes sociétales de la société civile deviennent égal comme un citoyen sans aucun autre attribut. Palestiniens, juifs, chrétiens, n'importe, sans religion d'ailleurs, toutes les composantes de la société. C'est un État neutre sans aucune qualification et c'est un État sans religion. L'État, il ne peut pas avoir une religion dans tous les sens. C'est un appareil administratif. Ce n'est pas une personne. Donc voilà un État qui est censé accepter la communauté actuelle des Juifs israéliens à seule condition que cette communauté juive israélienne accepte l'idée de retour des Palestiniens, premièrement, car c'est une condition indispensable, et deuxièmement, il accepte le retour des Palestiniens et la fin de tous les privilèges, tous les colons l'ont obtenu, et toute la restitution de toutes les propriétés au titre brevet qui étaient volées aux Palestiniens. Il s'agit du retour des citoyens égaux devant tout le monde sans aucun privilège colonial. Cet compromis, cette lutte, des fois, elle paraît comme plus ou moins utopique, car on sait très bien que les colons, ils ne peuvent pas relâcher leurs privilèges, mais on sait très bien aussi, dans beaucoup des histoires, on a vu en Afrique du Sud qu'il y avait effectivement le changement. C'est vrai, l'apartheid, il n'a pas terminé complètement au niveau économique, mais il y avait aussi une possibilité avec un changement de rapport de force, avec aussi un changement dans les conditions politiques générales, il y a une possibilité de faire perdre à toute cette communauté juive israélienne tous les atouts de la domination et faire les Palestiniens trouver leur place dans cet endroit qui est la Palestine, qui est leur pays d'origine, et partager toutes les ressources de ce pays entre les gens qui composent la société civile de cet endroit.
Oui, je pense que ce qui est important de souligner dans le débat, c'est que nous, organisations politiques, nous avons choisi de donner la parole et d'ouvrir le débat. Parce que dans la période actuelle, il n'y a pas de débat. C'est très difficile de discuter. Donc toutes les questions sont bienvenues, on en discute tranquillement et on essaye d'avancer collectivement.
D'abord, je voulais vous remercier pour quelques points qui ont éclairé des choses pour moi que j'avais en tête depuis longtemps. Par exemple, d'avoir fait remarquer que dans les résolutions, il n'était pas question d'un État palestinien dans les résolutions originaires. mais d'un État arabe et d'un État juif. Alors je reviendrai sur la question État juif. Mais État arabe, ça m'a éclairé sur un point, sur une dégueulasserie que j'entends régulièrement, j'avoue, dans mon entourage familial, vu que je suis, moi, la renégate anti-sioniste de la famille, c'est que arabe, ça sert à légitimer qu'on puisse dire, de toute façon, les Palestiniens, c'est des Arabes, il y a plein de pays arabes, ils n'ont qu'à y aller. Et ce point-là est vraiment, je pense, une des chevilles de la propagande de cette affaire-là. En revanche, il y a un point sur votre description de la colonisation, enfin, depuis 1917. J'ai quelques remarques à apporter. D'abord, 2017, c'est la déclaration Balfour. Et donc, le projet de foyer national juif existe déjà. J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, un documentaire, enfin, un long entretien fait par des gens qui s'appellent Stella, Via Stella, qui est un long entretien avec Leïla Chahid, qui parle d'un livre écrit par sa mère sur Jérusalem. Et ça m'a frappée, parce qu'elle dit que sa mère raconte que les colons arrivent, enfin les premiers, les tout premiers, ils achètent des terres. Alors ça, le droit d'acheter, on a le droit d'acheter. Mais au bout d'un moment où ils ont acheté plein de terres, ils disent « on est chez nous ». Alors qu'est-ce qu'on dirait si les Chinois ayant acheté l'avenue Foch, ils déclaraient que la France maintenant c'est la Chine ? C'est-à-dire la fusion de la question de la propriété et de la question de la souveraineté, je pense que c'est un point très important. Moi, j'ai souvent été outrée d'entendre mes proches qui sont, enfin bon, quoi, des juifs communautaires traditionnels, parler du pays comme on parle de sa maison et de son chez-soi. Or, la question du pays, c'est autre chose que la question de l'espace privé. C'est-à-dire, dans le pays, on ne peut pas décider qu'un tel a droit d'y être et un tel n'a pas droit. Je peux décider que chez moi, entre que mes amis. Ça, c'est normal. Il faut avoir un chez-soi. Mais le pays, c'est autre chose. Dans le temps, j'avais un camarade qui disait « Le pays, c'est le nom de l'histoire de ce nom. » Et je trouve que c'est finalement une désignation intéressante. Cette affaire de la présence juive en Palestine, d'abord, il y avait des juifs avant Balfour, des années 30, moi j'avais des amis qui se revendiquaient comme descendants des juifs palestiniens. Il y avait des communautés, etc. Le projet sioniste est un projet qui, bien évidemment, naît en Europe à l'époque de la question de du redécoupage des États-nations. C'est à peu près contemporain, c'est un peu plus tard que la naissance de l'Allemagne, après la Prusse, etc. Vous dites les juifs ashkénazes. Ça, quand même, je ne peux pas ne pas relever ce point. Bien sûr, ce sont les Ashkénazes. Et d'ailleurs, quand les orientaux sont arrivés, ils ont été traités comme des chiens. Les juifs orientaux, je veux dire. Les Marocco-Sakines, ceux qui avaient le couteau entre les dents. Mais quand même, je ne peux pas passer sous silence le fait que l'arrivée des juifs d'Europe en Israël, en Palestine, c'est la rançon que l'Europe paye, d'une part, pour ne pas voir revenir les gens qu'elle a laissés déporter, quand même. Et deuxièmement, qu'il y a effectivement, vous avez raison, la question d'insérer, comment ils appellent ça aujourd'hui, la pointe avancée de la civilisation européenne dans l'Orient barbare. Ce sont des mots qu'on entend, hein. Des gens ont dit ça. De même qu'à l'époque de l'opération Plomb durci, 2008-2009, un dignitaire de l'armée israélienne, dont je n'ai pas retrouvé le nom, mais comme vous savez, chez les juifs, que son nom soit oublié est la malédiction suprême, donc j'assume que je ne me souviens pas de son nom, un général a déclaré que pour venir à bout de la résistance de Gaza, il ne serait pas mauvais de s'inspirer de la stratégie des Allemands pour réduire le ghetto de Varsovie. Donc, bien évidemment, la question est-ce que nous sommes dans un monde où la seule question qui reste, c'est comment les puissants vont arraisonner intégralement le monde, ou bien est-ce que quelque chose d'une hypothèse politique, sur ce point vous avez raison, il n'y a de communauté, de regroupement, communauté est un mot compliqué, possible que politique, ni confessionnel, ni national, ni ethnique, parce que ça c'est chacun le rapport à sa propre naissance, c'est une question éminemment individuelle. Mais est-ce qu'il va y avoir une autre hypothèse que ce qui se dessine aujourd'hui, à savoir l'obscénité des puissants? Enfin, quand même, le président des États-Unis peut déclarer publiquement « On défendra l'Ukraine seulement si elle nous donne toutes ses ressources ». Dans le temps, c'était comme ça, mais ce n'était pas dit. Donc, la question, c'est aujourd'hui que faire de ces questions-là? Et avec qui s'allier?
Oui, bonjour et merci. Moi, je voudrais savoir, aujourd'hui, cette idée d'un État laïque et démocratique, qu'est-ce que ça représente chez les forces politiques palestiniennes, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, ou même chez les réfugiés dans la diaspora? Est-ce que c'est une idée qui est majoritaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est débattu ou pas du tout? Est-ce que là, depuis l'année et demie qui s'est écoulée, est-ce que c'est un sujet qui est encore, dont il est encore possible de parler à ce stade?
C'était plus sur le droit au retour. Donc c'est le droit au retour avec restitution des maisons et des terres. Les terres qu'on récupère, c'est les terres conquises militairement après 1948, c'est les terres qui ont commencé à être colonisées entre 1917 et 1948, et comment on partage équitablement entre les populations les ressources naturelles, les ressources en eau notamment.
Donc là, je redonne la parole à Naji qui va réaborder ces points.
D'abord, pour nous les Palestiniens, on considère que la création de l'État d'Israël, c'est un acte antisémite. Antisémites, pour la raison simple, quoi? Ils ont pas retourné des camps chez eux, les Juifs allemands, Polonais, autres. Pourquoi les acheminer en bateau vers la Palestine? C'est un acte d'antisémitisme dans le sens que si le nazisme a été pour massacrer les Juifs, pour les effacer de leur présence dans les sociétés occidentales, il s'agit de les éloigner cette fois. Les éloigner en Palestine, c'est un acte absolument antisémite. La création de l'État d'Israël, c'est un acte antisémite. C'est la continuation de la lutte plus ou moins générale contre, effectivement, la présence juive qui est une présence historique en Europe. Donc, il s'agit d'un problème européen. Nous, les Palestiniens, on n'a absolument rien. Et moi, je me rappelle très bien, en discutant avec mon père, nous sommes de Jaffa, donc Jaffa c'était le bord de la Palestine. Je lui demandais, mais qu'est-ce que vous pensez de ces juifs qui débarquent tous les jours? Il a dit, ils sont des réfugiés, il faut les accueillir. Voilà la perception des Palestiniens, il s'agit des réfugiés qu'il faut les accueillir. Ils ont absolument, les Palestiniens, ils étaient pas du tout au courant de ce qui se passe en Europe. Spécialement, moi, je parle de la Palestinienne, pas de l'élite palestinienne. L'élite palestinienne a été consciente depuis le XXe siècle du danger de ce projet politique de sionisme, de créer un État, qu'est-ce qu'on a appelé à l'époque, un foyer juif. Donc voilà, la création de l'État d'Israël, c'est une question euro-européenne. On a subi tout simplement une politique européenne, car on n'a absolument rien à voir avec le nazisme, avec tous les massacres qui étaient commis contre les Juifs européens. Quand je parle des Ashkénazes, le fer de lance du sionisme a été Ashkénaze. Il n'y a absolument rien à voir avec les Juifs arabes. Moi, je connais, j'ai beaucoup d'amis, des Juifs d'origine irakienne, d'origine nord-africaine. Ils disent qu'on était aussi exportés dans ce lieu pour des raisons multiples. Les Juifs irakiens, c'était la complicité du gouvernement effectivement irakien à l'époque qui était sous influence des Britanniques. Il y a toute cette arrivée des Juifs orientaux, irakiens, égyptiens d'Afrique du Nord a été quelque chose qui est venu comme un auxiliaire pour le projet sioniste. Mais le projet sioniste est un projet ashkénaze par excellence. Le mouvement sioniste est né en Europe, il est banné chez les Juifs arabes. C'est une sorte de contamination. Les bombes qui étaient explosées dans la synagogue de Bagdad pour effectivement pousser les Juifs irakiens à l'émigration. Donc quand je parle des Ashkénazes, il s'agit d'un projet européen. Vous savez, Israël, c'est une colonie européenne implantée dans ce Moyen-Orient qui était la Palestine. Voilà peut-être la question pourquoi je parle des Ashkénazes. Je ne parle pas des autres juifs orientaux, même s'ils sont devenus aussi à leur tour sionistes. Car vous savez, hein, les intérêts et les privilèges coloniaux aussi, ils vont séduire. On peut effectivement changer de camp, devenir, on sait très bien que les Juifs arabes, ils sont devenus aussi auxiliaires du mouvement sioniste ashkenaz, car il y a des intérêts. Les intérêts coloniaux, les privilèges coloniaux qu'on a donnés à ces communautés. Vous évoquez plusieurs éléments, l'histoire de 1917 et la déclaration de Balfour. Il y avait quelques colonies agricoles, d'abord faites par Rothschild. Rothschild, l'anglais, c'est le français. Pour des économies coloniales classiques, on amène des juifs de l'Europe pour cultiver des vignes, spécialement pour Rothschild, c'était ça. Mais c'était bas massif.
Dès les années 30, même si c'était pas massif du point de vue du peuplement, c'était quand même très organisé politiquement et militairement.
Ça, c'est évident. Les réfugiés, ils ne sont pas que les réfugiés en 1948, suite à la création de l'État d'Israël. Il y avait des réfugiés palestiniens en 1921. Vous savez pourquoi? Il y a une région qui s'appelle Wadi al-Hawaref. Il était acheté par un grand propriétaire libanais, la famille de Soursok. On a expulsé la population de 21 villages palestiniens de cette région. Et grâce aussi aux troupes britanniques qu'ils ont encerclé toute la région et ils ont jeté la population. Donc on a le premier problème de réfugiés en 1921. Le projet sioniste, il n'a pas commencé en 1946. Il a bien commencé depuis le début du siècle, du XXe siècle. 1921, on a des problèmes de réfugiés palestiniens. Ça veut dire des Palestiniens jetés en dehors de leur village et récupérer les villages pour créer effectivement des colonies agricoles. Donc le projet sioniste, il est bien ancien. Hein? Mais en 1946, il s'agit d'une sorte d'accomplissement du projet sioniste. Il s'agit effectivement d'une arrivée massive des Ashkenazes en Palestine. Vous savez, la création de Tel Aviv, par exemple. Tel Aviv, c'était une petite bourgade dans les années 20. Petit à petit, il commence à grandir et il est devenu une grande métropole. C'est grâce à quoi? Grâce effectivement à l'immigration et l'arrivée massive des Juifs ashkénazes. Par rapport à votre question concernant cette notion de One Democratic State, la dernière sondage en 2023 parmi les Palestiniens, la question a été la suivante. Est-ce que vous êtes avec la solution de deux États ou avec un État, un seul État? Il y avait 32%, ils ont répondu pour un seul État. C'était le sondage fait par un centre très prestigieux de recherche de Ramallah. On sait très bien que les gens-là, ils sont vraiment impartiaux. Ils ne sont pas des positionnements politiques, il n'y a pas de manipulation. Donc voilà, il y a 32% qui était avec la solution du un seul État. Il y a la même institut, il a réalisé un deuxième sondage parmi les jeunes Palestiniens de 18 ans jusqu'à 35 ans. On a vu que ce pourcentage pour l'État ionique a monté à 72%. La jeunesse palestinienne, dans sa majorité, croit réellement que l'histoire de deux États est complètement illusoire. Il n'y a qu'un seul issue possible, c'est la création d'un seul État pour tous les citoyens dans cet espace de la mer à la rivière. D'ailleurs, dans notre mouvement, on considère, tout à l'heure j'ai exposé effectivement les raisons pour lesquelles il n'y aura jamais un État palestinien, un État vraiment fiable et véritable à cause de cet morcellement de terrain. On considère que la question de deux États, c'est pas seulement impossible à réaliser, mais il est aussi de principe condamnable. Condamnable, pourquoi? Car c'est une solution raciste et très nationaliste. Et on considère que les visions nationalistes, elles vont amener qu'aux guerres et aux conflits. Il faut avoir quelque chose qu'on appelle, nous, dans notre terminologie, post-national. Quelque chose qui dépasse la question des appartenances sectaires et pour avoir effectivement une ouverture. Est-ce que l'idée elle est répandue? Est-ce qu'elle est discutée? On essaye de le faire effectivement discuter. On voit que le binationalisme, c'est une répétition encore une fois de tous les conflits liés à la question de la nationalité. on considère le conflit, c'est bas national, c'est bas entre la nation palestinienne et la nation juive. Il n'y a pas d'ailleurs ni nation juive ni nation palestinienne. Il y a des babs palestiniens, il y a un bab juif israélien qui est là, et il faut trouver un moyen de discuter le partage de pouvoir dans ce lieu-là, en acceptant le principe de la citoyenneté, une citoyenneté complètement intégrale, sans aucun attribut. La question de vivre ensemble avec les Juifs israéliens, c'est quelque chose qu'on le discute. On le discute, car on est effectivement dans le même espace. Il y a autour de 190 000 travailleurs palestiniens avant la guerre de Gaza. Ils traversent la ligne verte, qu'est-ce qu'on appelle, pour aller travailler en Israël. Et la Palestine, elle est petite quand même. Je vous donne un petit exemple. Moi, j'ai vécu à Nablus, et pour aller à l'aéroport de Lod, je fais 25 minutes. 25 minutes, c'est tout. Les Palestiniens, ils ne peuvent pas le faire. Car effectivement, quand on a des nationalités étrangères, on peut le faire. Car il y a les routes, qu'est-ce qu'on appelle les routes des colons, que les Palestiniens, ils n'ont pas le droit d'emprunter. Il faut trouver une solution, car c'est un espace unifié sous l'autorité d'un seul État. Mais c'est un État d'apartheid et un État raciste. Actuellement, il faut penser à la question de la lutte pour changer la nature de cet État, pour qu'il devienne un État démocratique pour tout le monde, pas pour une seule communauté. Et voilà l'essence même de notre revendication politique, d'avoir un État unique, démocratique et laïque, sans aucune appartenance que l'appartenance à la citoyenneté. Donc la question est discutable, elle est discutée parmi les Palestiniens. C'est une nécessité. Par rapport à la question de notre camarade, par rapport à la terre au retour, en 1948, il vient cette expulsion massive des Palestiniens de chez eux, dans toutes les zones qui sont devenues les zones de l'État d'Israël. Au niveau de propriété privée, en 1947, attendez le chiffre, les Juifs institutionnels et les Juifs au sens propriété privée, ils n'ont que 7% de la terre de la Palestine. 7%, ça veut dire au titre de la propriété privée juive, au titre de la propriété collective au nom de toutes les institutions sionistes qui étaient créées à l'époque, il n'y a que 7% de la terre de la Palestine qui appartient au sens propre à la propriété juive. C'est une chose très, très minoritaire. L'État d'Israël a pris 78 au lieu de 7%. Vous voyez, entre la propriété propre et juive qui représente 7%, en 1948, elles sont devenues 78%. Par l'expulsion des Palestiniens, l'expropriation des Palestiniens de leur propriété privée. Donc, les familles palestiniennes qui possèdent toujours tous les documents de leur propriété de la terre en Palestine, des documents qui montrent exactement où les cadastres, qu'est-ce qu'on possède, et tout ça, et tout ça. Il y a un grand monsieur palestinien qui a fait vraiment de recherches assez importantes pour dire que le prétexte des Israéliens que le retour, ça sera impossible pour les Palestiniens, car le retour, ça veut dire exproprier les Juifs qui sont déjà installés sur le lieu. Il dit pas du tout. La raison essentielle, le blocage des villages palestiniens qui étaient évacués, ils sont toujours là. Il n'y a pas toujours des colonies à la place des villages. Il y a effectivement quelques cas où il y a des colonies qui étaient construites sur les villages. Mais la majeure partie des villages palestiniens abandonnés, ils sont engloutis sous les herbes folles qui a poussé. Ou 10 fois, on a fait des projets de forestation, je ne sais pas le mot en français, on a effectivement créé des forêts pour effacer les traces de ces villages, effacer ou changer aussi la physionomie du lieu pour qu'il ne soit pas reconnaissable. Donc la propriété des Palestiniens, on peut l'approuver, il est là. Un retour, ça veut dire la récupération de toutes les propriétés au sens privé du mot. Mais on sait très bien que la terre communale en Palestine, avant 1948, a existé aussi. à l'époque ottoman, autour de 90% de la terre de la Palestine, elle était communale, car le titre brevet a commencé en 1872. Pourquoi 72? La réforme ottoman, elle a commencé à rentrer dans les cycles de marché capitaliste pour moderniser ces structures, pour qu'ils puissent rentrer dans le cycle de marché international, a imposé la privatisation de la terre, une chose qui n'a jamais existé en Palestine. La propriété privée en Palestine, avant la réforme ottomane, elle était minoritaire. L'État ottoman a imposé aux Palestiniens d'inscrire les terres au titre privé, pas au nom des communautés villégeoises. Avant, il y avait la propriété de la communauté villégeoise qui exploite la terre et elle distribue la terre après au titre individuel, mais d'une façon temporaire. Car la terre, elle est à toute la communauté et elle n'est pas effectivement nominalement désignée pour des individus, pour des familles. Et d'ailleurs, la question des achats de la terre en Palestine par l'agence juive était grâce à cette passation de propriété de la main des grands propriétaires palestiniens à des grands, plus grands propriétaires qui étaient libanais et syriens. Et c'est eux qui ont vendu le blue-bar de ces terres qui étaient des terres palestiniennes qui appartenaient dans le passé à toutes les communautés villégeoises. Si il y a un jour le retour, ce retour-là, on va soit donner direct, soit récompenser ces terres par autres. Il y a une histoire assez intéressante. On avait l'exemple d'un journaliste, je ne sais pas, américain, je pense, à une époque. Il a demandé au chef palestinien George Habash, il a dit, qu'est-ce que ça va dire le retour? Ça va dire expulser les juifs qui sont déjà là. George Habash, il a dit non. Il a dit, écoutez, moi je suis de Lod. Le Nakba en 48, il était étudiant à l'université américaine de Beyrouth. Donc il connaît très bien, il était suffisamment âgé pour connaître les lieux. Il a dit, je sais très bien, dans notre maison à Lod, si je reviens à Lod, je ne veux pas aller expulser les gens qui occupent la maison qui est bas avec un étage. Il a dit tout simplement, je vais négocier avec ce propriétaire de ma maison la possibilité d'avoir un étage là-haut. On vit les deux ensemble. Donc voilà, il y a toujours la possibilité de ne pas expulser cette famille qui a occupé la maison, mais construire à côté ou avoir quelque chose pour pouvoir créer des autres conditions de vie. Donc la question de retour, ça ne sera pas la création d'un état d'injustice concernant la population juive actuelle. Il s'agit d'un état qui va réglementer par la loi toutes les relations et tous les conflits de propriété où il y aura un retour des droits aux Palestiniens sans créer des états qui sont états injustes par rapport à la communauté juive. Car la communauté juive, c'est vrai, elle était instrumentalisée par le projet sioniste, mais il y a nullement chez les Palestiniens des sentiments de revanche ou de faire des choses comme ça. Il s'agit tout simplement de récupération des biens, il s'agit tout simplement de réaliser un retour et de pouvoir vivre avec tous les autres. Et vous savez, les Palestiniens, ils sont toujours vécu avec les Juifs. Les Juifs, ils font partie de paysage. Même les Juifs ashkénazes, d'ailleurs, elle était là aussi. Il y a une sorte de cohabitation au quotidien parmi toutes ces communautés. On peut revenir à toutes ces relations historiques qui sont avant la création de cet État, la création de l'État d'Israël qui a cassé toutes ces relations entre les deux communautés. Il faut finir avec le projet sioniste, avec l'État sioniste dans sa forme raciste actuelle où il y a un buisson qui expulse et qui crie et qui impose ses lois par rapport aux autochtones. Voilà un état de droit, un état où il y a les gens cohabitent ensemble en bonne entente, pacifiquement. Et ça, c'est possible, c'est pas impossible.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes. N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact info@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info.